peu gênée ce soir parce que je ne vais pas vous parler uniquement de musique. Je vais plutôt situer la musique dans la dévotion au Sacré-Cœur. Et normalement, ce qui concerne la dévotion au Sacré-Cœur, la théologie, la mystique, ce serait plutôt à nous, messieurs les abbés, d'en parler. Je vais être obligée d'en parler. C'est-à-dire, je suis un petit peu... J'ai l'impression d'usurper certaines places. Bon, alors, certains d'entre vous ont été présents lors d'une conférence sur la musique sacrée et la musique profane. Et nous avons vu que les différents styles musicaux sont issus de la liturgie, du sacrifice, et que l'apparition d'une expression sensible aurait dû en quelque sorte dévier la musique de sa finalité, qui doit être la gloire de Dieu, et de ce fait conduire à la prière. Il semble bien qu'il manque un aspect à la fois doctrinal et spirituel pour comprendre cette apparition progressive d'une expression sensible et humaine dans la musique comme dans les autres arts. La réponse nous est donnée précisément par la dévotion au Sacré-Cœur, dévotion d'un cœur humain animé par la personne divine. Et ce soir, je vous propose un parcours rapide de l'histoire de cette dévotion, parallèlement à celle de l'évolution du langage musical. D'abord, en quoi consiste la dévotion au Sacré-Cœur? Vous savez que le Sacré-Cœur est intimement lié à son épouse, l'Église. Celle-ci jaillit de son cœur de chair lorsque le côté de notre Seigneur fut transpercé par la lance du soldat romain. Rappelons que le cœur humain est considéré comme étant le siège de l'affectivité, de la sensibilité, et qu'il réagit à toutes nos réactions physiologiques, affectives, sensorielles, sensibles, et il est donc considéré comme étant le siège de notre sensibilité. Le cœur, il est également le siège de la vie. Le cœur de notre Seigneur nous donne la vie comme il la donne à son Église. Il est également le siège de son amour qui unit l'amour divin, l'amour trinitaire, à l'amour humain qu'il éprouve pour nous en tant qu'homme. C'est ainsi que Saint Jean, en reposant sa tête sur le cœur de Jésus, a pu en ressentir les battements, battements humains animés par la divinité. C'est ce qui a permis au père Monier Vinard d'écrire « Le cœur de chair est en effet nécessaire. Il fait partie essentielle de la dévotion au Sacré-Cœur, car toute dévotion, pour mieux parler aux esprits incorporés que sont les hommes, doit, elle aussi, comme se revêtir de chair en s'incarnant dans un symbole visible. » Plus loin, il ajoute « Font aussi partie de l'amour humain du Christ, ses frémissements, ces exultations de joie, ces accablements de tristesse qui retentissent jusque dans la chair et rendent témoignage que le Christ est vraiment homme comme nous. De ces manifestations dans la chair, le cœur de Jésus est bien alors la source et l'organe souligné, et ils ne peuvent être exclus de la dévotion au cœur du Verbe qui s'est fait chair. Verbum caro factum est. L'élément spirituel et l'élément sensible sont donc essentiels pour la dévotion au Sacré-Cœur. Ils ne font qu'un et expriment l'amour du Verbe incarné, l'amour incréé, celui qui créa Lazare, l'amour créé, celui qui ressuscita Lazare, qui pleura Lazare, pardon, et qu'il ressuscita par voie de conséquence. Expression sensible qui se retrouve dans l'art. La dévotion au Sacré-Cœur s'adresse à l'amour du Verbe incarné, du Dieu fait homme, symbolisé par le cœur de chair. Il unit l'amour divin, l'amour de Jésus-Christ pour son Père dans la Trinité, à son amour humain et divin pour chacun d'entre nous. Amour qui passe par l'incarnation pour aboutir au sacrifice de la croix pour le rachat de l'humanité. La dévotion au Sacré-Cœur est apparue progressivement dans les ordres monastiques. parce qu'elle est le fruit de la contemplation de l'amour divin. Cet amour passe par l'écoute, l'oreille, organe de l'audition qui préside toute activité musicale. Saint Benoît commence le prologue de sa règle en ces termes. Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et incline l'oreille de ton cœur. Saint Jean de la Croix, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, se réfère également à la nécessité de l'écoute en citant Saint Paul dans la montée au Carmel. La foi vient de l'audition et l'audition de la parole du Christ. À l'école de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'audition se purifie tout en gardant et même en développant sa sensibilité humaine et affective. Et écoutons Sainte Élisabeth de la Trinité qui renonça à une carrière pianistique pour entrer au Carmel. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô monastre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Dans ses prières, elle réunit la purification de l'ouïe et celle de la vue, ce que nous retrouvons dans les arts. Comme musicienne, bien entendu, je me limiterai à la musique. Alors maintenant, un peu d'histoire. Les premières traces de la dévotion à la plaie du côté de Notre Seigneur datent du XIe et du XIIe siècle. Guillaume de Saint-Thierry, mort en 1150 environ, écrit le fit Saint-Bernard en premier. Le fer a transpercé son âme, il a eu accès à son cœur, pour qu'il sache désormais compatir à mes infirmités. Guillaume de Saint-Thierry, disciple de Saint-Bernard, ami de Saint-Bernard, ajoute « Quand je brûle de m'approcher de lui, c'est lui tout entier que je désire voir et toucher, plus encore, m'approcher de la sacro-sainte blessure de son côté, de cette porte faite au flanc, non pas seulement pour y mettre mon doigt ou ma main, mais pour entrer tout entier jusqu'au cœur même de Jésus, dans le Saint des Saints, dans l'Arche du Testament, jusqu'à l'urne d'or de notre humanité, contenant en soi la manne de la divinité. » Il ajoute, « Ces ineffables richesses de votre gloire, Seigneur, étaient cachées dans le ciel de votre être mystérieux, jusqu'à ce que la lance du soldat, ayant ouvert le côté de votre Fils, notre Seigneur et Rédempteur sur la croix, il s'en écoula les sacrements de notre rédemption, de façon que nous mettions pas seulement dans son côté notre doigt ou notre main comme Thomas, mais que par la porte ouverte, nous entrions tout entier jusqu'à votre cœur, ô Jésus, ce siège assuré de la miséricorde. » Le bienheureux Guéric d'Igny, mort en 1160 environ, donc nous sommes au XIIe siècle, disciple de Saint Bernard, contemple la sensibilité humaine de ce cœur. « Béni soit-il, lui qui, pour que je puisse faire son nid dans les trous de la pierre, s'est laissé percer les mains, les pieds, le côté. Bon et plein de pitié, il a ouvert son côté pour que le sang de sa blessure te vivifie, que la chaleur de son corps te réchauffe, que le souffle de son cœur t'inspire. » Ainsi, dans les monastères, la contemplation des plaies de notre Seigneur conduit les religieux à les voir et à en ressentir physiquement la douleur. Sans doute est-ce le propre de la vie unitive, qui ayant passé par les différentes purifications de la sensibilité mentionnées par Saint Jean de la Croix, y retourne pour la transcender en quelque sorte. Nous verrons que l'évolution, la croissance de cette dévotion, s'est d'abord faite dans les monastères avant de passer dans toute l'Église pour aboutir à la consécration des familles, des pays, du monde entier au Sacré-Cœur. De même que nous voyons les prémices de cette dévotion sensible au Sacré-Cœur au XIIe siècle dans les monastères, commence à apparaître la polyphonie, écriture à plusieurs voix, dont l'évolution conduira à l'expression humaine de la musique. À ce sujet, écoutons la bénédictine Saint Hildegarde de Bingen. Réfléchissez que puisque le corps de Jésus-Christ est né de l'Esprit Saint dans l'intégrité de la Vierge Marie, ainsi de même le cantique de louange est enraciné dans l'Église selon l'harmonie céleste par l'Esprit Saint. Le corps, en effet, est vêtement de l'âme qui a une voix vivante, et c'est pourquoi il convient que le corps, avec l'âme, chante par sa voix les louanges de Dieu. Donc, nous sommes en plein 12e siècle, car Saint Hildegarde de Bingen est morte en 1179. Je vous propose, elle a écrit de la musique, très belle, et je vous propose d'écouter un chœur, un extrait d'un petit chœur, d'un petit motet, de Saint Hildegarde de Bingen, O Eterne Deus. Ça va être au XIIe et au XIIIe siècle, avec Sainte Mechtilde et Sainte Gertrude, et également Saint Bonaventure, que va apparaître la véritable dévotion au Sacré-Cœur. Auparavant, on n'en avait que les prémices. Sainte Mechtilde, morte en 1298, vit l'échange de deux cœurs dans un élan d'amour entre celui qui donne, c'est notre Seigneur, et celui qui reçoit, donc son propre cœur. Jésus lui donne son cœur en gage d'alliance. Et comme Saint Jean, elle va reposer sur ce divin cœur. Le Père Bainvel, et qui a, c'est de chez lui que je tire toutes mes références, et qui a écrit un livre remarquable, justement sur l'historique de la dévotion au Sacré-Cœur, mais surtout centré autour de Sainte Marguerite Marie. Mais il a montré comment Sainte Marguerite Marie est un aboutissement de ta d'une dévotion qui existait auparavant. Donc le Père Bainvel remarque que pour Sainte Mechtilde et Sainte Gertrude, le Sacré-Cœur se manifeste dans sa gloire, alors qu'il se manifestera dans les souffrances de l'agonie et de la croix à Sainte Marguerite Marie. Et uni à la Sainte Trinité, il se rattache par conséquent au mystère divin et à la liturgie qui le célèbre. Cette vue du Christ dans la gloire est le propre de l'art de cette époque, qui en musique va se traduire par la polyphonie, qui reste fondée, ceci j'insiste, sur le chant liturgique et le chant grégorien pour le moment. Le fondement de ces débuts de la polyphonie est basé sur le chant grégorien, pas vraiment de la pureté liturgique. La contemplation du Sacré-Cœur s'accompagne de manifestations sensibles. Sainte Gertrude a sa première vision le jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, comme l'aura Sainte Marguerite Marie. Effectivement, dans l'Évangile, la tête de Saint Jean repose sur le cœur de son maître et il en reçoit les douceurs de l'amour divin. Comme lui, Sainte Gertrude se trouve placée sur le côté de la plaie de notre Seigneur et ressent le battement d'amour de ce divin cœur. Elle écrit « Dire la suavité de ses pulsations a été réservé pour les temps actuels, afin qu'en entendant ces choses, se réchauffe le monde vieillissant dont l'amour s'alanguit. De même que cette dévotion d'amour fondée sur les battements du de cœur de notre Seigneur est réservé aux temps actuels pour les réchauffer, leur donner vie, en quelque sorte, la polyphonie va donner un nouvel essor à la musique et susciter un langage dont la richesse peut se comparer au cœur glorieux de notre Seigneur. En effet, les 12e et 13e siècles vont voir l'épanouissement de ce qu'on appelle l'ars antica, qui était pratiquement ce que nous avons entendu là, et l'école de Notre-Dame, illustrée par Léonin et Perrotin, dont je ne peux pas vous passer d'exemple parce que j'en ai pas. En même temps également que la dévotion au Sacré-Cœur, les premiers essais de la polyphonie apparaissent, comme je vous l'ai dit, dans les monastères, tout particulièrement dans les cloîtres, notamment dans celui de Saint-Martial de Limoges. Les tropes, très important, paroles improvisées sur un chant liturgique, se développent dans les cérémonies religieuses des monastères. Ils sont à l'origine des mystères, représentations à la fois scéniques, poétiques et musicales, s'inspirant de l'écriture sainte, de la vie des saints ou de légendes sur des sujets religieux qui annoncent l'oratorio du XVIe siècle. Je vous propose d'écouter un très mauvais enregistrement d'un exemple d'un trope datant du XIVe siècle. Les paroles de fond, vous l'entendrez un peu, c'est un sans tous, autour desquelles se développent d'autres paroles, mais je vous dis tout de suite, on n'y comprend pas. Elles sont en latin, mais l'enregistrement n'est pas bon, mais je pense que c'est quand même intéressant d'écouter. Elle n'est pas, enfin, elle peut, vous pouvez l'avoir un peu mesurée, mais le rythme reste quand même très libre. Vous avez une impression de carrure qui est donnée par la voix du dessous, qui est le sanctus, mais toutes les fioritures qui sont autour, à mon avis, dépassent de beaucoup la mesure. Mais vous verrez effectivement, je vais en parler plus tard, un peu plus loin, ça date du début de la musique. Où apparaît la notion mesure. Alors que vous sentiez une certaine fracture à ce niveau-là, ça s'explique très bien, vu que c'est du XIVe siècle. Mais je ne pense pas qu'on peut le donner comme exemple de musique mesurée. Voilà. L'usage des instruments dans les églises est également contemporain de ces premières manifestations du Sacré-Cœur. L'instrument produisant le son est animé par l'exécutant dont l'inspiration d'origine divine passe par la matière pour rendre gloire au Créateur. Ce qui fait dire à Saint-Hildegarde de Bingen d'où vient que l'esprit prophétique ordonne expressément que Dieu soit loué par la joie des cymbales et par d'autres instruments de musique que sages et savants ont inventés. Puisque tous les arts utiles et nécessaires aux hommes proviennent de ce souffle d'esprit que Dieu a envoyé dans le corps de l'homme. Et c'est pourquoi il est juste qu'en tout temps, il loue Dieu. Donc les instruments sont apparus, mais il y a toujours cette idée de louange divine. Nous en sommes encore là. En Italie, ce sont les franciscains qui ont introduit la polyphonie au XIIIe siècle. Or, nous avons cité Saint Bonaventure comme l'un des premiers grands dévots du Sacré-Cœur. N'oublions pas non plus la dévotion de saint François d'Assise au simplet de notre Seigneur dont il reçut les stigmates. Les franciscains ont également introduit en Italie ce qu'on appelle les laudes au XIVe et XVe siècle, qui ne sont autres que des cantiques populaires. Je vous propose d'en écouter un fragment qui célèbre la nativité et vous verrez que vous avez là un accompagnement instrumental qui s'ajoute à la partie chantée. Alors là, par contre, on a la musique mesurée. Je réponds à votre question, monsieur. Là, nous sommes dans la musique mesurée. C'est très net. Du XIIIe au XVe siècle, le culte du Sacré-Cœur se propage. Des âmes privilégiées reçoivent des faveurs spéciales, comme celle d'être admises à coller leurs lèvres sur la plaie du côté, de pénétrer dans ce cœur pour s'y reposer, d'être embrasées d'une étincelle venant d'une partie de ce cœur, d'échanger son cœur contre celui de Jésus pour vivre en quelque sorte de son cœur divin. Notre Seigneur s'adresse à Sainte Catherine de Sienne dans le dialogue en ces termes pour lui enseigner son mystère d'amour. Alors là, j'insiste parce que c'est très important. Mon désir concernant la race humaine était infini et l'acte présent de la souffrance et des tourments était fini. Par cette souffrance, je ne pouvais donc vous manifester combien je vous aimais, puisque mon amour était infini. Voilà pourquoi j'ai voulu vous révéler le secret du cœur en vous le faisant voir ouvert, pour que vous compreniez bien qu'il vous aimait bien plus que je n'avais pu vous le prouver par une douleur finie. Donc, c'est là où nous commençons à voir arriver la notion du temps et de l'écoulement du temps. Et que voyons-nous en cette fin du XIIIe siècle? C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premières horloges mécaniques, les visions du temps. C'est également au XIVe siècle qu'avec Philippe de Vitry, la notion de la mesure, donc de l'écoulement dans un temps donné, donc fini, se trouve dans l'Ars Nova, qui est un art sacré, si vous voulez, en tout cas d'aspiration religieuse, ainsi que la dualité entre le temps, le trois, vous avez donc là sur mes feuilles, tempus perfectum représenté par le cercle et le deux, tempus imperfectum représenté par le demi-cercle. De même que les successions de tierces que vous avez également sur les feuilles font appel à l'affectivité, que l'accord parfait qui apparaît de temps à autre rattache la musique à l'ordre cosmique, naturel, universel. Et donne ainsi naissance à un véritable humanisme musical. On a un tournant. Les hommes vivent sans doute davantage dans le temps, dans un écoulement historique, ce qui explique la différence entre l'amour humain limité, fini, et l'amour divin qui, lui, est infini. Ainsi apparaît le combat entre les tendances limitées de la nature humaine et l'âme qui aspire à l'amour divin. Et il y a, je ne vous donne pas d'exemple, c'est le mot « tais » qui en superpose des textes différents sur un cantus firmus qui n'est autre qu'un motif du chant grégorien, d'origine liturgique ou profane quelquefois, illustre déjà ces tensions qui vont s'accentuer au cours des siècles. Nous sommes à une racine, nous sommes à une charnière, là, au XIVe siècle. Notre Seigneur, par son divin cœur, veut apaiser et apporter le remède à ce combat. Aussi se manifeste-t-il à plusieurs âmes privilégiées, parmi lesquelles Sainte Marguerite de Cortone, tertiaire de Saint François, Sainte Angèle de Foligno, chez Dominicain, outre Sainte Catherine de Sienne, le bienheureux Henri Souzeau. L'ordre dominicain tout entier fut de bonne heure familiarisé à l'idée du cœur blessé et de son symbolisme. Il le fêtait déjà le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, jour qui devait devenir celui de la fête du Sacré-Cœur, par un office consacré à la plaie du côté. Chez les Chartreux, une première théorie est esquissée par Ludolf de Saxe, dit le Chartreux, né en 1295 et mort en 1378. Dès le XIVe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur se manifeste chez plusieurs d'entre eux. Ils avaient même une image du cœur de Jésus sous les yeux et ils la mettaient sous les yeux des fidèles, ainsi que dans leurs livres et dans l'ornementation architecturale. Nous avons déjà une amorce de représentation du Sacré-Cœur que demandera le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Ainsi, la dévotion au Sacré-Cœur pénètre peu à peu dans la liturgie et dans l'architecture sacrée. Elle est donc reliée, ce qui est normal, à l'acte sacrificiel, support de la liturgie et de la vie chrétienne. Les musiciens, comme Guillaume Dufaille, Hockegem, Obrecht, Josquin des Prés, superposent des mélodies sans support harmonique, sans accompagnement donc, aspect sensible de la musique. Par contre, une part importante est donnée aux instruments, une même œuvre pouvant être indifféremment chantée ou exécutée instrumentalement. De même que l'image, représentation sensible pénètre l'architecture, les instruments entrent dans l'église. Les premiers documents sur la musique de clavier datent également du XIVe siècle. Or, la musique de clavier par l'orgue se rattache à la liturgie, à l'office divin, tandis que le clavicorde et le clavecin se rattachent à la vie profane. La polyphonie a donc pénétré dans la liturgie, expression sensible fondée sur la musique purement sacrée qu'est le chant grégorien, comme la dévotion au Sacré-Cœur, qui repose sur le Saint-Sacrifice de la Messe et qui continuera de s'étendre au cours des siècles. Et dans la seconde moitié du XVe et la première moitié du XVIe siècle, des pratiques avec des exercices spirituels propres au Sacré-Cœur s'instaurent à l'aide de manuels. En Espagne, en 1456, se joue une joute publique écrite par un prêtre de Valence, Luis de Garci, en l'honneur du très sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le texte est perdu. Toujours à Valence, en 1550, paraît également une sorte de petit office du sacré cœur. De Agnès, prêtre espagnol, ami de Saint François Borgia et de Sainte Thérèse d'Avila. Citons également le bienheureux Jean d'Avila, mort en 1569, Louis de Grenade, né en 1515, mort en 1588, et bien entendu Sainte Thérèse d'Avila, dont on connaît la dévolution à l'humanité de notre Seigneur et à sa transfiction. En Italie, Mère Claire-Marie de la Passion, fondatrice des Carmélites de Regina Celi à Rome, décédée en 1575, Sainte Catherine de Ricci, née en 1522, mort en 1607, Sainte Madeleine Pazzi, née en 1566, mort en 1607, les franciscains parmi lesquels Bernard Bossimo, mort en 1591, Jean de Carthagène, mort en 1617, chez les dominicains, Pierre Doré, chez les jésuites, Salmeron, Tolette. Des théologiens ont également parlé du Sacré-Cœur. À la fin du XVIe siècle, la dévotion est déjà fort répandue, mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'elle devienne publique. La réforme, la contre-réforme, le Concile de Trente, ont exercé leur influence non seulement dans le domaine doctrinal et dans la vie politique, mais aussi dans l'art, qui eut pour mission de véhiculer l'enseignement religieux et d'exprimer la ferveur de la foi. On sait que le Concile de Trente est à l'origine de l'art baroque. Celui-ci s'adresse à la sensibilité par l'image, la sculpture, préfiguration peut-être de l'image demandée par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Il suscite un art d'inspiration religieuse qui coexiste avec la musique sacrée, le chant grégorien, musique polyphonique sur des textes liturgiques ou non. Je vous propose d'écouter un fragment des Nocturnes du Jeudi Saint de Victoria, compositeur espagnol contemporain de Palestrina, né en 1545, mort en 1611. Il est né à Avila lorsque Sainte Thérèse avait 23 ans et il a vécu à Rome où il fut en contact étroit avec Saint Philippe de Néri. Je vous propose donc d'écouter un de ces fragments des Nocturnes du Jeudi Saint, Unus ex discipulis. Parmi les plus grands compositeurs de l'école romaine, citons aussi Palestrina, Roland de la Sousse, l'école milanaise sous l'influence de Saint-Charles-Borromée. Compte parmi ses compositeurs Vincenzo Ruffo et son disciple Ingenieri. L'école vénitienne, fondée par Villaestre, reste en marge du Concile de Trente. Elle utilise des intervalles dits interdits, je ne les ai pas notés sur ma feuille, mais ça n'a pas d'importance, pour illustrer les images et le sens du texte, une plus grande ornementation mélodique, le chromatisme, des effets d'écho, le double chœur. La basilique Saint-Marc, siège de ses recherches, abrite des compositeurs comme Arcadel, Cyprien de Rohr, Gabrielli et son neveu Giovanni, puis surtout Monteverdi, qui développe un langage musical sensible, principalement dans sa musique profane, dont nous écouterons un fragment tout à l'heure. La réforme tridentine demande l'adaptation des formes traditionnelles à une polyphonie simple et claire qui suscitera un langage plus harmonique, ce qui est important parce que nous allons voir arriver le récitatif, donc c'est une syllabe par note de l'oratorio et l'opéra. Sous l'impulsion sans doute inconsciente de l'expansion de la dévotion au Sacré-Cœur, les compositeurs se laissent aller à une expression plus humaine, plus individuelle dans leurs œuvres et n'hésitent pas à employer des moyens qui s'éloignent de la liturgie proprement dite, bien que celle-ci continue de nourrir toujours leur dévotion personnelle. L'harmonie, science des accords, je vous en ai donné un petit exemple là, se dégage peu à peu de la polyphonie et prend le pas sur le contrepoint qui est la superposition mélodique des voix. Vous avez l'apparition du madrigal, pièce profane, ou ce qu'on appelle les affectis, formule souvent chromatique, qui exprime les sentiments du texte. Ils sont souvent écrits par des musiciens d'église, comme Arcadel, Consasso Festa, Palestrina, etc. La modalité, dont je vous ai donné un exemple ici, disparaît. Les œuvres vocales sont transcrites pour des instruments tels que ce qu'on appelle des symphonie sacrée, ainsi les instruments vont pénétrer de plus en plus dans l'église parce qu'ils ne vont plus être seulement instruments accompagnateurs, mais ils vont avoir un rôle à jouer en tant qu'instruments solistes. Ils sont sans aucun doute des incarnations très humaines de la musique, puisque construits par l'homme, la voix venant directement de Dieu. Dans les offices religieux, l'orgue prend de plus en plus d'importance chez les protestants comme chez les catholiques. L'étude et l'écoute des instruments stimulent la sensorialité, la motricité. Leur contact conduit à une expression sensible dont le but est de donner de la vie à la matière. Au XVIe siècle, les notions de rythme, d'harmonie, de timbre, tout en donnant davantage conscience aux musiciens d'une vie affective et sensible, le conduisent à une recherche d'expression individuelle qui se manifeste dans les premiers opéras et dans les oratorios. Cependant, la distinction entre style d'église et style profane reste quand même très distincte encore à cette époque. Ils vont se confondre progressivement au cours des siècles, dès le XVIIe siècle. Alors, nous savons que la fin du XVIe et du XVIIe siècle voit l'apogée de l'art baroque en sculpture, peinture, musique, issue du Concile de Trente, précisément. Son but est de donner un enseignement doctrinal par l'image. Les pères ont officiellement recommandé les représentations du Christ en sculpture ou en peinture en s'appuyant sur le fait que Dieu s'est fait homme. Le Sacré-Cœur confirme cette orientation en demandant à Sainte Marguerite Marie l'exposition de son image. L'opposition au protestantisme qui supprime toute figuration de la divinité est flagrante. Qu'en est-il de la musique ? Les compositeurs italiens, comme nous l'avons dit, recherchent une musique expressive et mettent en place une théorie des passions afin d'exprimer aussi bien la joie exubérante que la douleur. La musique devra faire ressortir la signification du texte par la dissonance, le chromatisme, l'harmonie. La basse, uniquement, devient le support de la mélodie. Continuo qui accompagne le récitatif, je vais vous en donner un exemple. Le texte gouvernant la mélodie. La tonalité fait apparaître la note ou le degré sensible qui se résout sur la tonique. Exemple que vous trouvez également dans mes feuilles. L'opéra, dont les débuts datent de la seconde moitié du XVIe siècle, va se développer jusqu'à nos jours. Spectacle total, expression du monde profane, qui exalte des sentiments humains souvent héroïques. Un des exemples les plus caractéristiques qui donne une synthèse des moyens utilisés est le fameux Lamento d'Ariane de Monteverdi. Donc, c'est tout ce qui nous reste de cet opéra. Mais c'est justement très caractéristique de ce style récitatif sensible avec une seule basse d'accompagnement. Vous voyez que nous sommes déjà dans un autre monde, complètement. Au XVIIe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur se propage et prépare le grand mouvement qui va conduire le monde, qui va conquérir le monde après les révélations à Sainte Marguerite Marie. On la trouve en Espagne avec le Trinitaire Saint-Michel des Saints, chez la Vénérable Marine d'Escobar, entre autres. Aux Pays-Bas, Nicolas de Montmorency, homme d'État, est auteur de recueils de prières dont plusieurs s'adressent au Sacré-Cœur. Citons aussi Benoît Hefton, Jacques Marchand, la recluse de Lille, religieuse augustine, Jeanne de Cambry. En France, la dévotion au Sacré-Cœur se propage partout, dans le monde, à la cour, dans les cloîtres. Nous sommes au XVIIe siècle. Elle est professée par le cardinal de Bérulle, M. Ollier, les jésuites, et se rencontre même chez les jansénistes, et surtout chez saint François de Sales, qui en fondant l'ordre de la Visitation avec sainte Jeanne de Chantal,
a ouvert un écrin dans lequel se plaira le Sacré-Cœur. Voici ce qu'il écrit à Saint-Jean de Chantal le 10 juin 1610. Je vous rappelle que 1610, c'est l'année de la fondation de la visitation à Annecy. Dieu m'a donné cette nuit la pensée que notre maison de la visitation est, par sa grâce, assez noble et assez considérable pour avoir ses armes, son blason, sa devise et son cri d'armes. J'ai donc pensé, ma chère mère, si vous en êtes d'accord, qu'il nous faut prendre pour arme un unique cœur percé de deux flèches, enfermé dans une couronne d'épines, ce pauvre cœur servant d'enclavure à une croix qui le surmontera et sera gravé des sacrés noms de Jésus et de Marie. Notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par l'ouverture de son sacré cœur. Il est donc bien juste que notre cœur demeure, par une soigneuse mortification, toujours environné de la couronne d'épines qui demeura la tête de notre chef, tandis que l'amour le tint attaché sur le trône de ses mortelles douleurs. La visitation était désormais consacrée au Sacré-Cœur. Plusieurs religieuses, avant Sainte Marguerite Marie, furent favorisées de grâces insignes venant du Sacré-Cœur. Comme Français, nous ne pouvons oublier la carmélite de Beaune, la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, née en 1619, morte en 1648, dont l'action et les prières s'étendirent sur toute la France, puisqu'elle reçut des révélations concernant la naissance du futur Louis XIV. Le père Hamelot en parle en ces termes. Un jour, notre Seigneur l'encouragea à lui demander de grandes grâces pour les âmes au nom de son enfance divine et lui donna l'espérance qu'elle lui serait accordée. Alors, il lui fit naître une pensée très forte de le prier qu'il eût plus de donner un dauphin à ce royaume. « Puise, lui dit-il, ce que tu voudras dans mon cœur, et rien ne te sera refusé. Je t'accorde le dauphin que tu demandes. » Plus de 40 ans plus tard, le Sacré-Cœur demandait à Louis XIV, par l'intermédiaire de Sainte Marguerite Marie, de lui consacrer son royaume. Des écrits sur le Sacré-Cœur paraissent chez les Chartreux, les Franciscains, les Bénédictins, les Ursulines, chez les Jésuites. Les exercices de Saint-Ignace de Loyola, que nous connaissons tous plus ou moins, nous font découvrir la vie intime de notre Seigneur Jésus-Christ et nous conduisent ainsi à l'amour du Sacré-Cœur. L'oratorio, dans le domaine de la musique religieuse, est le corollaire de l'opéra. Il est né à Rome, à l'oratoire fondé par Saint-Philippe de Néri. Il exprime l'amour divin et par son caractère spectaculaire, fondé à la fois sur l'image et la musique, il s'oppose au protestantisme. Je vous propose un extrait de Jephté, de Carissimi. Et vous allez voir, c'est lorsque Jephté rencontre sa fille dans l'histoire biblique, si ma mémoire est bonne. Jephté avait donc, pour vaincre les Ammonites, avait fait vœu de sacrifier à Dieu la première personne qu'il rencontrerait. Et il s'est trouvé que c'est sa fille. Et nous avons donc le dialogue, là, de cette rencontre entre Jephté et sa fille. Donc, de Carissimi, nous sommes au début du XVIIe siècle. Et vous allez voir qu'il y a une parenté avec le fameux Lamento d'Ariane de Monteverdi. Dans le style, bien sûr.
Filia mea, filia mea.
Saint Jean Eudes, né en 1601, mort en 1680, est sans aucun doute l'un des fondateurs de la dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie. Et par voie de Saint Jean Eudes, né en 1601, mort en 1680, est sans aucun doute l'un des fondateurs de la dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie. Et par voie de conséquence, du Sacré-Cœur. Son action est le fruit de la préparation qu'il reçut à l'oratoire, où, âgé de 20 ans, il est influencé par M. de Bérulle et de Condran. Il lit aussi les écrits de Saint Mechtild, de Saint Gertrude, de Landsberger et de Louis de Blois, premier dévot, donc du Sacré-Cœur. En 1670, il écrit le texte d'une messe et d'un office dédié au cœur adorable de Jésus et demande que la fête soit célébrée le 20 octobre 1670, à Coutances, Évreux, Bayeux, Rennes. Il reçoit l'approbation de plusieurs évêques. Le 29 juillet 1672, il adresse une lettre aux six maisons de sa société pour leur enjoindre de fêter le Sacré-Cœur le 20 octobre comme fête patronale. La fête sera adoptée par d'autres congrégations. En même temps, se répand la dévotion au Sacré-Cœur dont nous avons souligné le côté sensible résultant de la sainte humanité de notre Seigneur et de son cœur, siège de l'amour, de la sensibilité humaine, faite de joie et de tristesse avec l'apparition de la polyphonie, ainsi que l'indépendance progressive de la musique instrumentale, de la musique vocale et aussi de l'opposition entre le mode majeur et le mode mineur qui nous donne cet aspect extrêmement sensible que nous avons dans la musique et que nous avons dans les deux exemples que je viens de vous passer. Nous ne reviendrons pas sur les révélations très connues faites à Sainte Marguerite Marie et les demandes du Sacré-Cœur, heure sainte, acte de réparation pour toutes les offenses et les sacrilèges, messe et communion réparatrice du premier vendredi du mois, consécration de la France par Louis XIV. Sainte Marguerite Marie est formée par le Sacré-Cœur. Elle en est l'instrument pour orienter, ranimer, constituer une dévotion de l'Église et même d'un pays, donc viable pour les siècles à venir. Les Jésuites la diffuseront dans le monde entier. Sans doute était-ce le moment choisi par la Providence, le Sacré-Cœur ayant dit à Sainte Gertrude que cette dévotion était réservée au dernier temps. Malgré les résistances et les difficultés de tous ordres, après la mort de Sainte Marguerite Marie, la dévotion s'étend aux confréries, des chapelles et des hôtels lui sont dédiés, les bénédictines, les ursulines, les chartreuses déjà préparées par les mystiques de leur ordre. Finalement, le 16 mars 1697, un décret de la Sacrée Congrégation donne le droit au monastère de la Visitation de célébrer la messe des saints plaies pour la fête du Sacré-Cœur. L'expansion de la musique instrumentale nous est connue par les concertos de Corelli, de Vivaldi en Italie, tout le monde les connaît, de Jean-Marie Leclerc, musicien lyonnais, de la musique de la cour de France, dans les œuvres de Lully et de Michel Richard de Lalande. Les guerres de religion ont stoppé provisoirement l'évolution de la musique en France, aussi faut-il attendre Louis XIV pour qu'elle retrouve toute sa vitalité. Et nous avons vu combien la personne de Louis XIV se rattache à la dévotion au Sacré-Cœur. Naissance miraculeuse à la suite d'un vœu d'Anne d'Autriche, la demande qui lui fut faite par Sainte Marguerite Marie de lui consacrer son royaume afin de régner publiquement, non seulement sur son Église, mais sur sa nation de prédilection pour toucher le monde entier. Jean-Baptiste Lully, Biac Italia, créateur de l'opéra français dans son orchestre, recherche une certaine couleur instrumentale. À la cour, la polyphonie vocale pénètre dans les offices, le grand et le petit motet. Celui-ci, exécuté quotidiennement, peut être uniquement monodique pour une voix soliste avec lequel le seul accompagnement de l'orgue. Il ne s'insère cependant pas dans l'action liturgique, c'est important. Il peut être considéré comme une méditation, une prière se référant à l'office du jour. Par contre, le Te Deum, par la richesse de sa polyphonie, le grand orchestre, manifeste le faste de la monarchie de droit divin. Marc-Antoine Charpentier, outre ses motets et histoires sacrées, est auteur de messes polyphoniques dont l'exécution s'insère dans la liturgie proprement dite. Rappelons qu'après avoir été maître de musique au collège de Clermont-Louis-le-Grand, il exerça les mêmes fonctions à la Sainte-Chapelle qui a abrité la relique insigne de la couronne d'épines. Dans son œuvre presque exclusivement religieuse, messe ou motet, la tonalité, donc sensible, humaine, règne. Illustration d'un humanisme sacralisé par l'humanité de notre Seigneur, donc par son cœur. Je vous propose d'écouter le début des litanies de la Vierge, donc de Marc-Antoine Charpentier, qui donc de la seconde moitié du XVIIe siècle. Une musique instrumentale est également en plein développement. Les pièces de clavecin et les suites de couperin sont un exemple. Et là, vous avez vu qu'il y a un accompagnement instrumental important. La musique d'orgue intervient de plus en plus dans les offices et fait des emprunts au clavecin. Est-ce une profanation du sacré? Voyons, personnellement, j'y vois plutôt une purification, une sacralisation du profane. Parmi les organistes, nous pouvons citer Nivert, Gigot et bien entendu les couperins. Comme nous l'avons déjà dit, le cadre de la suite est emprunté au clavecin. Donc, il y a une intrusion de la musique profane qui arrive à l'église. Ils introduisent ainsi des thèmes populaires à l'église, ce qui est le cas de Nicolas de Grigny. Si l'on considère que la cour offre des rites qui se rattachent à la personne sacrée du roi, il est possible d'admettre que la musique profane qui s'y rattache pénètre dans les offices religieux, dans son écriture bien entendu. Il ne s'agit pas des textes qu'elle accompagne, ça c'est évident. Au XVIIIe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur se répand publiquement. Ainsi, en 1720, lors de la peste de Marseille, la consécration au Sacré-Cœur et l'amende honorable sont faites pour faire cesser le fléau, ainsi qu'à Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Toulon. Et enfin, retenez bien, le 25 janvier 1765, un décret de la Sacrée Congrégation donne une fête au culte existant et ce décret sera approuvé par le pape Clément XIII le 6 février de cette même année. La reine Marie Leczinska donne son soutien pour l'institution d'une fête officielle en France le vendredi qui suit l'octave de la fête du Saint-Sacrement. En musique, la primauté est donnée en France à l'harmonie, théorie naturaliste qui vient des encyclopédistes. L'harmonie, les accords vont permettre à la sensibilité affective et plus tard à la sensualité de s'exprimer dans la musique. Rameau, dans son traité d'harmonie, décrit les possibilités sensibles du langage musical. Dissonance, chromatisme, tonalité majeure et mineure, etc. L'opéra continue de se développer en unissant musique, danse, pantomime, parole et ainsi s'adresse au sens. Dans les pays germaniques, Jean-Sébastien Bach exprime une très grande sensibilité dans l'harmonie et les modulations. Cette sensibilité, même dans sa musique profane, est orientée à la seule gloire de Dieu. Sa prière est soit collective, soit individuelle, hors du culte sacrificiel puisqu'il est protestant. Mais il le rejoint par la prière et l'universalité de son langage et l'influence, bien entendu, de toute une musique d'origine catholique. Dans le Messie de Handel, le protestant a écrit un hymne au Christ roi. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Dans ses oratorios, il manie l'art de la fresque musicale, la grandeur. Il fait appel au visuel. Finalement, il donne l'impression de s'adresser, contrairement à Bach, plus au monde qu'à Dieu. Je vous propose d'écouter un fragment du chœur final du Messie de Handel que, je pense, la plupart d'entre vous connaissent, parce que c'est extrêmement connu. Avec Joseph Haydn et Mozart, disparaît la frontière entre un langage sacré ou profane. Joseph Haydn, dans les deux cas, utilise chromatisme, surprise dans les modulations, rythme complexe, etc. Mozart se sert indifféremment des mêmes thèmes dans sa musique profane, les opéras, que dans sa musique religieuse. N'oublions pas que les églises baroques autrichiennes offrent un véritable décor de théâtre, ce qui explique une impression de désacralisation. Je pense qu'on ne peut comprendre la musique de Mozart et la musique sacrée de Mozart qu'au travers des églises baroques de l'Autriche. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Beethoven, dans sa Missa Solemnis, dont la longueur ne peut évidemment s'inscrire dans un office liturgique, ni par son esprit, met une tendresse toute humaine dans le violon solo de Benedictus, dans le solo. Et là, à mon avis, bon, c'est très beau, mais c'est beaucoup plus humain que religieux. Je vois un fragment. Donc le Benedictus, début du Benedictus de la Missa Solemnis de Beethoven. maintenant, vous allez avoir le Donum Dobis Pacem de la même messe. Je n'ai pas de commentaire à faire, vous verrez tout de suite l'esprit. Alors, il est évident que nous sommes très, très loin d'une musique, on pourrait dire, sacrée. La dévotion au Sacré-Cœur poursuit son expansion officielle au XIXe siècle. Le pape Pie IX, à la demande des évêques de France réunis à Paris à l'occasion du baptême du prince impérial, étend la fête à l'Église universelle sous le rite double majeur. Le 16 juin 1875, il consacre le monde entier au Sacré-Cœur. Le 28 juin 1889, 200 ans après les apparitions à Sainte-Marguerite-Marie, la fête est élevée pour toute l'Église au rite double de première classe. Le 23 juillet, un décret permet de reporter la fête au dimanche. Léon XIII, le 25 mai 1899, dans son encyclique Annum Sacrum, annonce la consécration du genre humain au Sacré-Cœur. Le 3 avril 1899, la Sacrée Congrégation autorise la récitation publique du Sacré-Cœur, des litanies du Sacré-Cœur. Citons quand même ce passage de l'encyclique de Léon XIII. Cet amour réciproque est, malgré les distances, un amour d'amitié, un amour de familiarité, de fraternité intime et tendre avec la nuance que nous avons dite. Cela tient en partie sans doute à ce que l'amour du Sacré-Cœur pour nous se présente comme un amour humain sous des formes sensibles, à la mesure pour ainsi dire de notre cœur. Mais cela tient surtout à ce que cet amour étant celui de Jésus, du Verbe incarné, nous ne pouvons oublier qu'il a voulu être de notre famille pour nous faire de la sienne, qu'il a voulu, étant Dieu, se faire homme pour faire de l'homme un Dieu. N'oublions pas non plus la demande faite au président de la République par l'intermédiaire de Claire Ferchaud de mettre l'emblème du Sacré-Cœur sur les drapeaux français lors de la guerre de 1914-1918. Le Sacré-Cœur veut étendre son règne sur les nations, dans l'ordre public, précisément parce qu'il est fait de chair et peut ainsi s'unir à notre humanité et la racheter. L'exacerbation sensible, fondée sur le majeur et le mineur de la musique du XIXe siècle, l'a conduit à perdre sa finalité spirituelle pour exalter les sentiments humains. Je crois que nous venons d'en avoir justement un exemple. Même lorsqu'elle peut être d'inspiration religieuse, comme chez Berlioz ou Verdi. Écoutons le début de l'offertoire du Requiem de Verdi, qui fait partie de ses dernières œuvres. Centré autour du Dies Irae, il devient un véritable drame sacré. Ici, il s'agit donc du début de l'offertoire Liber Amé. En France, la réforme liturgique de Solesmes, suscitée par Don Guéranger, va épurer la sensibilité et ainsi permettre un retour aux vraies valeurs du sacré, à une pureté liturgique. Et nous allons voir arriver le retour de la modalité qui va coexister avec la tonalité, justement, dans la musique française. Donc, c'est ceci sous l'influence de l'école de Solesmes, du renouveau liturgique. Le Requiem de Fauré, qui date de 1886, en est un exemple. Contrairement à Verdi, il supprime le Dies Irae. En fait, nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'une œuvre liturgique, bien qu'elle ait été chantée dans un contexte liturgique, mais plutôt d'une méditation sur la mort. Et là aussi, je vais vous passer un fragment du même Liberame, mais vous allez voir que le soliste, en réalité, va chanter dans un style beaucoup plus modal, et ensuite le chœur prendra un style plus tonal. Nous avons la coexistence des deux. Dans le chœur, déjà, nous retrouvons une influence quand même, davantage une polyphonie rappelant celle du XVIe siècle, enfin une polyphonie sacrée. Or, à cette époque, 1886, la petite Thérèse Martin a 14 ans et désire entrer au Carmel de Lisieux. Elle est déjà à l'aurore de son message d'abandon et d'offrande dans l'amour miséricordieux, complément du retour à la pureté liturgique qui en entend l'autel, purifie la sensibilité et la conduite à l'amour divin. La dévotion au Sacré-Cœur, dont l'aboutissement est l'offrande individuelle comme victime à l'amour miséricordieux, a libéré la sensibilité humaine et lui a permis de s'exprimer dans l'art en lui donnant un équilibre qui empêche une déviation et une exaltation morbide du moi. Elle conduit à une ascèse musicale, à une certaine limitation de moyens, dont la musique française est un exemple dans la première moitié du XXe siècle. Pour comprendre cette évolution, rappelons les conditions dans lesquelles la dévotion au Sacré-Cœur s'est progressivement imposée. En tout premier lieu, ce qui frappe, c'est non seulement l'amour, mais aussi la pauvreté, la pénitence, la mortification de la chair. Cela explique la raison pour laquelle elle est née dans les couvents, dans les monastères, donc dans la vie cachée des âmes. Elle est sans doute réservée au dernier temps, précisément dans le sens d'une purification. Celle-ci se fera en art par une sensibilité maîtrisée par l'intelligence, par une juste mesure qui compte dans l'utilisation des moyens et même par un esprit de pauvreté qui conduit à un dépouillement dans l'utilisation de la matière sonore, à condition que ce langage reste clairement intelligible et enraciné dans les grandes traditions musicales. Chez les romantiques, cette mesure se trouve souvent chez Schumann, Schubert, Chopin, plus rarement chez Liszt. La musique va la retrouver avec Debussy, Ravel, Poulenc, Heidegger, etc. Elle se rencontre dans une musique qui nous dégage des passions de la chair ou qui les équilibre, mais non dans celle qui les exalte et nous y enfonce. C'est ainsi qu'une musique garde sa pureté, qu'elle soit profane ou religieuse. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pour conclure, écoutons un fragment de la cantate de Noël d'Honegger qui fait appel précisément à toutes nos traditions populaires autour de la nativité. Le soliste chante en style modal et le chœur, c'est évident, tonal. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour éventuellement répondre à vos questions ou désirs de complément d'information. Je dirais que personnellement, il y a une musique sacrée et une musique religieuse. La véritable musique sacrée, pour moi, c'est le chant grégorien. Parce que c'est le chant qui est relié au sacrifice et à la liturgie. L'autre est une musique d'inspiration religieuse, suscitée par une musique sacrée, vous voyez ce que je veux dire, mais qui, dans certains cas, peut la rejoindre, c'est le motu proprio de Saint Pidis, par exemple, sur la musique polyphonique, mais la racine reste toujours le chant grégorien. Et à partir du moment où vous perdez ces racines-là, vous entrez dans une musique qui peut être très belle, qui peut avoir, si vous voulez, je ferai la distinction entre dans notre vie spirituelle, ce qui sont les offices de l'Église, et la vie de raison. C'est-à-dire que la vie de raison a été suscitée par la liturgie et le sacrifice, mais elle est individuelle. Et elle ne s'inscrit pas forcément dans la liturgie. Eh bien, disons que la musique religieuse, et même parfois profane, surtout dans la musique instrumentale, peut se rattacher à cette vie intérieure qu'est la vie de raison. Je crois que ce serait, je ne sais pas, messieurs les abbés, ce que vous en pensez dans ce que je viens de dire, mais si on peut voir les choses comme ça. Pas forcément. Pas forcément. Vous ne pouvez pas tomber dans un excès d'un excès dans l'autre. Non, pas forcément. Il y a un tri à faire. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas être systématique. Vous avez une œuvre, là, que je ne cite pas du tout, qui est absolument magnifique, qui est Christus de Liszt, et qui est un oratorio sur la vie du Christ, mais dont vous avez énormément de passages qui sont directement inspirés du chant grégorien, enfin d'une tradition sacrée. Oui et non, parce que vous avez une œuvre qui est absolument inentendable à mon avis, ce sont les béatitudes. ça dépend quoi? Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Au niveau d'une inspiration religieuse, c'est incontestable. Mais je vais plus loin, c'est que même la musique profane, d'ailleurs Jacques Chaillet lui-même, grand musicologue, a fait des recherches dans ce sens-là, l'a démontré, que même toute notre musique occidentale, la racine, même dans la musique profane, est d'origine sacrée, grégorienne. La racine, elle est là. Mais évidemment, un arbre, vous avez des quantités de branches qui poussent. Vous avez les racines, vous avez le tronc, puis vous avez les branches, puis vous avez des branches maîtresses, et puis vous avez des petites feuilles. Tout ça, ça fait partie de l'arbre. Mais si vous voulez, la vie de l'arbre ne dépend pas des feuilles, elle dépend des racines. Mais les feuilles sont quand même jolies. Il ne faut pas les oublier. Ça fait partie de la beauté de l'arbre. Je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Mais il ne faut pas le couper de ses racines. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est là le critère, si vous voulez. C'est un des critères. Enfin, je...
Par exemple, le culte qu'ont eu les modernes, je ne sais pas, on dire, les gens qui ont bien fait sur les dissonances, n'ont rien apporté au caractère religieux de tous les textes, même quand ils ont emprunté des textes.
Non, si vous voyez ça comme ça, non. Mais vous avez quand même, une expansion, le terme je le mesure volontairement, du langage. Et cette expansion du langage, elle est quand même nécessaire. Et en plus, l'utilisation de la dissonance, quand elle est faite d'une manière, j'allais dire, rationnelle, c'est-à-dire basée sur les harmoniques, basée aux autres, elle a une explication. Elle a sa valeur. Mais, encore une fois, il faut que ce soit dans un ordre. C'est si c'est coupé de cet ordre que ça ne va plus. Et d'ailleurs, dissonance, et non, oui et non. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que si vous écoutez attentivement de la musique du 12e au 13e siècle, une tierce vous partira une dissonance par rapport au reste. Alors que pour nous, c'est une consonance. Donc il y a quand même une question de relativité, si vous voulez. Il n'y a rien d'absolu dans l'histoire. Il y a une question d'ordre, de relativité, parce que la dissonance, elle est venue d'une découverte progressive des harmoniques. Car il y a une chose que je ne dis pas du tout là-dedans, mais qu'il faudrait voir, c'est que la polyphonie, elle est née aussi de l'acoustique. Comme vous avez dans les cathédrales et dans les églises une résonance qui vous donne la quinte, ça conduit les compositeurs à mettre des quintes. Et il y a un affinement progressif de l'oreille qui fait que les harmoniques sont de plus en plus audibles et qu'on les ajoute progressivement. Il faut tenir compte de ça. C'est pour ça que c'est très complexe, cette histoire-là. C'est pour ça que je pense ce qui est important, c'est bien de se dire, de toujours chercher la racine. Et qu'à partir du moment où la racine, si, d'une part, ou si c'est coupé de sa racine, ou si vous vous trouvez en face de quelque chose d'intrinsèquement pervers, que ça existe, on parle de la musique rock, mais il n'y a pas que la musique rock, eh bien, à ce moment-là, non. Je dis non. Mais il faut retrouver un ordre, une ordonnance. Et puis, il faut voir la finalité aussi. Parce que la finalité de l'œuvre d'art importe aussi, quelle qu'elle soit. Est-ce que quelqu'un...
Je voudrais dépasser un peu le problème. Si on compare grégorien et disons musique, le grégorien est là absolument pour exprimer quelque chose, exprimer un texte. Et il est inséparable du texte.
Oui.
C'est pourquoi moi je refuse à appeler grégorien de la musique pour cette raison. Alors que la musique à l'état pur, à mon sens, n'exprime rien. Elle se contente d'être.
Pas forcément.
Elle peut induire des sentiments chez la personne qui l'écoute ou qui la joue. Mais non, je crois que les musiques qui cherchent à exprimer quelque chose sont des musiques pour littéraires ou finalement des musiques... De
non, sport. Pas forcément. Si vous prenez justement dans le domaine, les exemples que je vous ai donnés, de la Mento d'Ariane ou de Jefté, nous montre bien qu'il y a une recherche d'expression du texte et du sens du texte au travers de la musique, comme le chant grégorien. Ce que je vous dirais de fondamentalement différent entre ce genre de musique, je pense également le lied romantique, l'opéra, au travers de la musique, cherche à exprimer à une expression. Mais le grégorien n'est pas une musique individuelle, c'est ça qui est important, c'est une musique d'église, et c'est une musique qui vise la louange de Dieu, qui donc se rattache directement au divin, et qui justement est au-delà d'une expression sensible purement humaine.
Oui, d'accord, c'est exactement la louange de Dieu.
Voilà, mais ça ne veut pas dire... Comment ?
On peut employer donc un autre terme que celui de...
C'est quand même de la musique. Je vois pas quel autre terme vous voulez employer. Quel a trouvé le terme à ce moment-là ? Comment ? Non, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une hiérarchie. C'est le chant. C'est l'état. Ça dépend si vous voyez la musique au travers d'instruments. Mais moi, la musique, c'est pas ça. La musique, ça englobe quelque chose. C'est une vibration générale, si vous voulez, qui est aussi bien dans la voix que dans les instruments. C'est général. Oui, bien sûr. Elle a commencé par la voix et les rythmes frappés. Tout à fait.
De l'intelligence.
Tout à fait.
Tandis qu'ensuite, eh bien, petit à petit, comme vous l'avez montré, il y a peut-être une déviation qui s'amène dans le sens où la sensibilité prend le pas sur l'œuvre de l'intelligence.
Bon, alors moi, je vais vous aider à vous citer une chose qui est extrêmement intéressante à ce niveau-là, au chant grégorien. Vous avez un autorino qui s'appelait Tomatis, quelques-uns d'entre vous en ont peut-être entendu parler, qui a fait des études sur la recharge justement musicale au niveau cérébral par l'oreille, et il a découvert que la musique qui rechargeait et rééquilibrait le plus l'être humain, c'était le grégorien. Et il a prétendu même qu'une des causes de la dégradation de la vie religieuse dans les monastères venait en réalité de l'abandon du chant grégorien, parce que le chant grégorien leur permettait physiologiquement de tenir leur ascèse. Et qu'à partir du moment où ils lâchaient ça, ils ne pouvaient plus physiquement tenir leur ascèse. Vous voyez, ça va très loin. Non, mais je dis, ça va très loin. Non, mais il l'a démontré, il le démontre. Hein. Et il traite des malades par l'audition, filtrée, de chant grégorien. Chant grégorien et la musique de Mozart. Alors, c'est pour vous dire que le chant grégorien va très loin.
Oui. Mais derrière tout cela, il y a l'en filigrane de la pêche originelle.
Mais bien entendu, mais bien entendu. Et je pense que c'est justement, et finalement, d'ailleurs je l'ai dit à un moment, je dis que justement, il y a ces, au XIVe siècle, il y a ces tensions, cette notion de combat qui arrive, et finalement qu'on va vivre tout au travers de l'art.
Et d'un certain côté, au niveau spirituel, on peut dire que même la spiritualité, la théologie sur le Sacré-Cœur a été mal interprétée.
Ah, certainement. Dans quel sens vous pensez qu'elle était?
Dans le sens où on a voulu, surtout ensuite avec le 19e siècle, etc., hypertrophier la sensibilité aux dépens de la théologie.
Okay, comment ça?
Dans le sens où la dévotion au Sacré-Cœur est éminemment théologique.
Bien sûr.
Non pas simplement sur les sentiments humains, mais elle est, je dirais, le moyen pour nous, pauvres humains, eh bien, de nous adresser à Dieu.
Mmh, c'est ce que dit très, très explicitement Léon XIII, d'ailleurs.
Tout à fait.
Dans ce...
n'a pas toujours été compris comme cela dans la spiritualité.
C'est-à-dire qu'on en a fait quelque chose de beaucoup trop sensible.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, comme vous l'avez dit à la fin, il y a eu une purification ensuite de cette dévotion.
Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on retrouve cette purification qui se, dans la musique et qui va parallèlement. Mais en par le retour, justement, de la réforme de Solesme, et du retour du chant grégorien qui a repénétré d'une manière différente, mais qui a repénétré dans la musique, sans supprimer ce qui était avant. Les compositeurs l'ont repris et en ont enrichi en quelque sorte leur langage musical. Pour eux, ça a été un enrichissement en le redécouvrant.